tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com. Chouette, chouette, un direct.
Le 13-30, un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure. En direct sur Radio Grenouille, à 13h30.
88.8 FM.
En direct.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau 13-30, bienvenue donc sur les ondes de la grenouille. Il y a peu, les FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain, fêtaient leurs 30 années d'existence au travers d'une exposition collective, les Pléiades, une exposition aux abattoirs FRAC Midi-Pyrénées. Une exposition mobilisant les 23 FRAC qui maillent le territoire français. Devenue la plus importante collection publique d'art contemporain au monde, avec plus de 25 000 œuvres de 4 500 artistes, les FRAC ont évolué au fil de leur histoire. D'abord musée sans mur dans les années 80, fortement mobilisé sur sa politique d'acquisition et de diffusion des œuvres, les FRAC s'installent désormais dans ses propres murs, comme à l'image du FRAC PACA. Aujourd'hui avec Pascal Neveu, directeur du FRAC PACA, retour sur l'histoire des FRAC, les conditions de leur naissance, leur mission, l'évolution de cette institution et les critiques auxquelles les FRAC ont été et sont encore confrontés. Pascal Neveu, bonjour.
Oui, bonjour.
Je disais donc 30 années d'existence. Peut-être revenir un peu sur la naissance de ces fonds régionaux d'art contemporain et à quel type de questions ou de problématiques ont donné lieu la naissance de ces FRAC.
Alors leur naissance, elle participait vraiment d'un projet politique global puisque ça s'inscrivait dans le cadre des lois de décentralisation. Et l'idée était vraiment, entre 82 et 83, de créer dans toutes les régions de France, donc à l'échelle des 23 régions, de nouvelles structures qui puissent à la fois développer des collections d'art contemporain en région et en même temps soutenir la création contemporaine, puisque le panorama culturel dans les années, au début des années 80, fin des années 70, était pour l'art contemporain un panorama essentiellement parisien. Les musées, les galeries, les structures associatives très, très militantes, très engagées étaient vraiment sur Paris et sa proche banlieue. Et la région était, les régions dans leur ensemble étaient quasiment désertées. Il y avait quelques musées d'art contemporain, on les comptait sur les doigts d'une main, entre Bordeaux, Nantes, Saint-Étienne, Grenoble. Il fallait vraiment monter à Paris pour avoir une dimension à la fois de diffusion et de soutien. Donc c'est un changement vraiment radical qui s'opère en 2 ans. Là.
Le marché de l'art à cette époque-là n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui.
Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et le fait de créer les FRAC, on le voit dans les œuvres qui rentrent dans les collections sur les toutes premières années. C'est vraiment un effet de dynamique très très fort. Ce sont des centaines d'œuvres qui rentrent dans les collections et qui tiennent compte à la fois du tissu local, régional, mais d'emblée du tissu international également.
Alors si le projet initial visait d'une certaine manière à favoriser le marché de l'art contemporain en France, on peut dire aujourd'hui que ce marché de l'art se porte plutôt bien, non ?
Le marché de l'art, il se porte très très bien, il se porte toujours très bien en temps de crise en plus, donc c'est le paradoxe absolu. Donc c'est un marché qui est très, très 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 fort, mais sur lesquels les FRAC en fait ont peu d'entrée et en subissent plutôt les effets puisqu'on est vraiment sur une dimension à la fois prospective. L'envolée du marché de l'art fait que l'acquisition d'œuvres majeures d'artistes reconnus échappe complètement au budget des FRAC. On est vraiment pas du tout sur ce créneau-là, et même si on souhaitait l'être, on n'en aurait pas les moyens.
Est-ce que le FRAC a participé à cette envolée, d'une certaine manière, du marché de l'art ? Est-ce qu'il a favorisé, au point aujourd'hui d'en être, d'une certaine manière, exclu ?
On y a certainement participé de par la dynamique d'acquisition. 23 structures qui, en chaque année, achètent des œuvres représentent de toute façon quand même un poids financier, même s'il est modeste, important. Et puis surtout, il y a un poids qui n'est pour le coup pas modeste du tout et important, c'est le poids symbolique d'une acquisition dans un FRAC. Donc c'est clair que pour un artiste et pour un marché potentiel, le fait d'entrer dans une collection publique a un sens et a un sens au-delà de l'aspect purement pécunier.
Alors je disais, aujourd'hui on est à peu près à un peu plus de 25 000 œuvres. Quelle méthodologie est mise en place pour l'acquisition de ces œuvres ?
Alors c'est très variable, ça dépend véritablement des FRAC. Le socle commun, c'est la mise en place d'un comité technique qui prend parfois le nom de comité d'acquisition, comité d'experts, qui permet en fait au directeur de s'entourer d'un certain nombre de personnes qui pendant un mandat de généralement de 3 à 6 ans vont bénévolement participer aux grandes orientations du FRAC en termes de politique d'achat, que ce soit en termes de prospection, de visite d'ateliers, d'exposition, et donc faire un certain nombre de propositions pour que ces œuvres puissent à un moment donné rentrer dans une collection publique. Donc là, on est vraiment sur le socle commun qui est aujourd'hui encore en place dans les 23 FRAC. Ensuite, les dynamiques changent totalement. C'est-à-dire qu'il y a des FRAC qui sont véritablement inscrits sur des thématiques, des médiums particuliers, d'autres qui, au contraire, vont travailler sur des propositions qui sont uniquement en lien avec leur programmation. Certains n'étudient que les offres, les propositions qui sont faites par les membres du comité et le directeur. D'autres FRAC, au contraire, jouent la carte de l'ouverture et reçoivent un certain nombre de dossiers. Donc, les modalités sont très variées, en fait.
Les collections d'un FRAC à l'autre changent. Il peut y avoir des FRAC qui vont davantage se focaliser, disons, sur la création régionale, d'autres plutôt par rapport à des thématiques. Un FRAC plus, par exemple, autour de l'architecture, un autre peut-être plus autour de la question du portrait.
Oui, ça s'est affirmé au fil des ans. Ce qui est clair, c'est que l'ensemble des FRAC joue le jeu d'une inscription régionale. C'est-à-dire sans tomber dans un régionalisme et sans tomber dans une dimension à vouloir absolument acquérir uniquement des artistes installés en région, ce qui serait totalement contradictoire par rapport à la mission initiale qui était justement de constituer des collections internationales. Chaque FRAC est évidemment très sensible et vigilant à son territoire proche. Ensuite, il y a eu vraiment une dynamique qui est tout à fait spécifique à la France et au système français, c'est que les FRAC reposent sur la dynamique d'un projet artistique et culturel, ce qui fait que même si on a 23 directeurs de FRAC, on a aussi 23 projets artistiques et culturels différents. Donc les orientations, les thématiques vont varier d'un FRAC à l'autre et on le ressent vraiment très fortement dans la constitution des collections sur 30 ans. En fait.
Aujourd'hui, vos budgets vous permettent encore de faire de l'acquisition dans un marché de l'art hautement spéculatif ?
Non, on se situe complètement à la marge et sur un autre territoire. On est sur des moyennes de budget d'acquisition qui sont entre 150 000 et 350 000 euros par an, ce qui fait qu'on est de toute façon amené à travailler sur une dynamique qui est quasiment une dynamique d'acquisition d'artistes qui ne sont pas encore sur le marché ou qui sont vraiment en train d'y rentrer, mais on n'a pas du tout la capacité de se positionner sur des œuvres qui seraient déjà repérées sur le marché de l'art. Ouais.
Donc vous faites ce repérage en amont, d'une certaine manière, du marché.
En amont du marché, c'est généralement en amont aussi du fait que les artistes trouvent une galerie. Donc on est vraiment là dans un rôle de défricheur et de soutien, ce qui est aussi la mission principale des FRAC.
En amont de la galerie aussi.
Parfois, oui. Tous les artistes n'ont pas de galerie, donc c'est vrai que le fait positif est qu'une acquisition dans un FRAC peut à un moment donné générer l'attention d'une galerie et que cet artiste puisse ensuite trouver effectivement une place au sein d'une galerie commerciale. Ouais.
Qu'est-ce qu'on entend par art contemporain ? Parce que c'est difficile, on n'est pas face à quelque chose qui relève d'un mouvement ou d'un courant, on est davantage aujourd'hui à des formes d'artistes pris dans des individualités. Il n'y a pas vraiment... Comment définir cette nomination d'art contemporain ?
Il n'y a pas vraiment de définition idéale. C'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire de l'art, l'art contemporain, c'est Picasso. Donc on est évidemment bien au-delà, mais on est plutôt en lien direct avec ce qui est en train de se faire à un instant donné. C'est-à-dire d'essayer de rendre compte de ce qui se met en place, de l'évolution des médiums, de l'évolution des pratiques des artistes, des attitudes. Donc c'est un champ qui colle véritablement à une actualité immédiate, en fait.
Il y a une sociologue qui s'appelle Nathalie Heinisch qui a écrit dans un numéro de la revue Mouvement ceci. Le principe même des FRAC me semble aberrant. Les FRAC sont des institutions ambiguës entre le public et le privé. En fait, fonctionnant sur des fonds publics et gérés par des fonctionnaires, ils se donnent les objectifs de collectionneurs privés. Ils achètent au présent les choses en train de se faire. Ils interviennent sur le marché immédiat et endossent du coup le rôle économique des galeries privées, mais sont pour autant contraints dans des structures de musées. Les œuvres sont alors bloquées et ne peuvent plus circuler sur le marché international. Des pièces qui auraient vocation à circuler sur le marché, ne serait-ce que parce qu'elles sont très proches de leur date de création, sont donc immobilisées, ce qui est dommageable aussi bien pour le marché national que pour le travail des artistes. La vocation du musée est d'acheter un petit nombre d'œuvres qui, avec le temps, ont pu voir confirmer leur valeur. Dans ce cas, la question de la ponction sur le marché de l'art ne se pose pas. Mais dès lors qu'on achète en nombre des œuvres de très jeunes artistes, toute circulation est empêchée. C'est ce que disait donc Nathalie Heinisch, écrivait dans cette revue Mouvement. J'ai rencontré Olivier Michon, qui est directeur du abattoir FRAC Midi-Pyrénées. Je lui ai lu cette citation de Nathalie Heinisch et on écoute sa réaction.
Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui la circulation, c'est nécessairement une circulation économique. C'est quand même fou, quoi. Circuler, c'est forcément du côté de l'argent, du flux financier. Mais la circulation publique, savoir qu'une œuvre, elle peut être vue à Toulouse par 35 000 visiteurs et puis un an après dans une école du Gers et puis un mois après au MoMA. Voilà quoi. En quoi l'œuvre ne circule pas ? En quoi ça ne et en quoi l'institution, puisqu'elle conserve et qu'elle diffuse et aussi qu'elle documente et qu'elle accompagne le travail des artistes, est-elle néfaste pour les artistes ? Alors, elle serait néfaste pour les artistes parce qu'elle permet pas à leur marché de se développer. Mais s'il y a une institution publique, son rôle c'est peut-être pas de pousser le marché de l'art non plus. Hein. Sinon, on fait que des galeries. Enfin, c'est là où il y a une ambivalence. Après, ce qui est vrai et qui est plus compliqué, je pense, c'est que le marché de l'art a pris une tournure assez spéculative ces dernières années. Mais ce qu'on applique là, c'est peut-être valable pour 100 artistes, certainement pas pour les artistes qu'on achète aujourd'hui dans nos collections, pour une raison simple, hein, c'est que nos crédits ne permettent pas d'aller sur ce type de spéculation. C'est-à-dire que les artistes sur lesquels on spécule aujourd'hui en vente ou en galerie, le tarif d'entrée, c'est pas 3 000, 5 000, 10 000 ou 20 000 euros. Le tarif d'entrée, il est à 70 000, 80 000, 100 000 euros si on veut commencer à spéculer. Il n'est pas en achetant un tableau d'un artiste sorti des Beaux-Arts en 2006 à 3 000 euros qu'on s'amuse à spéculer.
Pascal Neveu, directeur du FRAC PACA, est-ce que la politique d'acquisition du FRAC empêche finalement à certains artistes de voir leur cote de œuvres pouvoir augmenter et rentrer dans cette spéculation du marché de l'art ?
Non, du tout. Je crois que les propos de Nathalie Heinisch, ils sont très très datés et faux en fait sur pas mal de points, puisque on n'est pas fonctionnaire. Les structures, les FRAC sont des structures associatives. On est sur du droit privé. On n'est pas du tout dans une logique de fonction publique. Au contraire, c'est bien là tout le challenge de ces structures, de financer sur des fonds publics effectivement, mais de garder une grande liberté d'action en termes d'acquisition, de prospection. Et il est clair que l'entrée d'un artiste dans un FRAC n'est en rien un handicap à une diffusion, à une lisibilité internationale, bien au contraire. Mais la corrélation entre l'acquisition FRAC et une dimension internationale, une visibilité internationale, elle se fait véritablement dans la durée. C'est ce qui ressort véritablement de l'histoire des FRAC sur 30 ans, qui reste une histoire très jeune. C'est que les artistes qui étaient effectivement ou qui ont été acquis au début des années 80, pour un certain nombre d'entre eux, sont aujourd'hui présents sur la scène internationale et sur la scène étrangère. On trouvait entre-temps des galeries, mais je crois que c'est prêter vraiment beaucoup, beaucoup d'ambition et beaucoup de pouvoir au FRAC d'imaginer que d'un seul coup, on pourrait confisquer du marché de l'art un certain nombre d'artistes et qu'au contraire, leurs œuvres ne soient pas vues, ni fréquentées, ni utilisées même, hein, puisqu'on est vraiment dans un usage de la collection dans les fonds régionaux d'art contemporain.
Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la valeur d'une œuvre, comme la valeur de toute chose, se mesure à son prix. Poser donc la question à Olivier Michon de savoir comment on évaluait la valeur d'une œuvre aujourd'hui.
La valeur d'usage, on va dire, n'a pas la même valeur que la valeur monétaire. C'est l'ambiguïté, hein, quand on parle des FRAC en disant « Oh, ben, ça coûte un peu d'argent, mais regardez, on a quand même fait des bonnes affaires, il y a des trucs qui maintenant coûtent 15 millions d'euros. »
Oui, c'est ce qu'on dit pour Jeff Koons, par exemple.
Sauf que c'est pas vrai, ça coûte pas 15 millions d'euros parce qu'on peut pas le vendre. Par contre, c'est une œuvre importante. C'est une relecture de travaux hein, des années 60. C'est une question de la représentation et du marché qui est mis en volume hein, par Koons. Et ça, c'est important. Moi, la valeur que j'ai des œuvres de ma collection, enfin de la collection du FRAC, pardon, c'est aussi l'usage que je peux en faire et l'articulation qu'on peut en faire dans nos présentations. Il y a des œuvres qui n'ont pas forcément une valeur très importante prises isolément, mais une fois dans un groupe, elles articulent et elles mettent des choses en avant. Actuellement, je parlais justement des œuvres de Guillaume Durieux, hein, qui est un artiste qui est sorti des Beaux-Arts de Toulouse en 2006, qu'on a acheté l'an passé. Ben, ces tableaux, aujourd'hui, dans notre nouvel accrochage des collections, ils sont dans la même salle qu'une peinture de Sam Francis et un Mathieu qui doit dépasser les 3 millions d'euros. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en faisant l'aller-retour, on comprend ce qui s'est passé entre les années 50 et 2010, comment la culture de la reproduction a permis à la peinture de muter, comment la question du geste s'est transformée, etc., etc. Donc, tout ramener à la valeur monétaire, c'est vrai que ça devient le critère. Après, c'est vrai, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'institution qui mène le bal, hein, c'est le marché. C'est-à-dire que l'argent, la valeur financière qu'on accorde aux choses, vient valider une qualité artistique. Voilà. Elle vient certifier quelque chose. Si ça coûte ce prix-là, c'est que c'est valable. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Olivier Michon, directeur des abattoirs FRAC Midi-Pyrénées. On revenait sur cette question de la valeur d'une œuvre, et finalement il oppose la valeur financière, hein, d'une œuvre à un autre type de valeur plus diffus, finalement une valeur diffuse, qui serait une œuvre comme ayant une opération de relecture de l'histoire de l'art, qui a une capacité d'articuler différents nœuds ensemble et donner finalement une lecture, une compréhension du monde. Est-ce que c'est cela la valeur d'une œuvre?
C'est à la fois la valeur d'une œuvre et la valeur d'une collection. C'est-à-dire qu'on a effectivement sur 30 ans une relecture possible aujourd'hui des collections des FRAC et plus particulièrement au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur. On voit comment en 30 ans ont émergé un certain nombre de médiums qui se sont affirmés, comme la photographie plasticienne dans les années 80, la vidéo dans les années 90. On voit véritablement dans ces collections se structurer en fait la scène artistique internationale. Et c'est une valeur qui effectivement n'a pas de prix, mais qui nous donne une grande dynamique à la fois de diffusion, dynamique pédagogique, dynamique d'usage encore une fois des collections. Parce que cette valeur qui n'est pas une valeur marchande permet véritablement de créer des liens entre des publics, des plus jeunes aux plus anciens, sur un art qui est en train de se faire. Donc c'est une valeur symbolique très très forte et une valeur aussi pédagogique qui est bien 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 supérieure encore une fois à la valeur marchande qui, pour des collections inaliénables, n'est pour nous en fait qu'un gage de plaisir, de contentement, de savoir qu'à tel moment, telle œuvre est rentrée dans une collection publique et qu'aujourd'hui, elle vaut des millions d'euros. Mais encore une fois, qui n'a pas pour nous d'effet direct, puisqu'on on reste encore aujourd'hui sur des collections inaliénables.
Une des missions fondatrices du FRAC, c'est aussi la question de la mise en circulation donc de ces œuvres et d'un travail avec les publics, d'un travail de médiation. Au fond, quand moi j'entends Olivier Michon parler de la manière dont il définit ce que c'est que la valeur d'une œuvre et la manière dont aussi, derrière vous, vous enchaînez, j'entends quelque chose d'une valeur qui finalement se noue dans une relation avec l'art, du public avec l'art. Est-ce que c'est cela aujourd'hui? C'est la question de la relation qui fait la valeur, de la relation public et œuvre?
C'est très important. C'est effectivement le socle commun à toute collection de FRAC. C'est cette capacité à un moment donné de trouver un public, de trouver des nouveaux publics, de trouver des circulations qui soient extrêmement diverses et variées, hein, que ce soit dans un contexte d'offres culturelles abondantes ou au contraire dans un contexte où on est vraiment dans une dynamique d'aménagement culturel du territoire. Je crois que l'œuvre, quand elle rentre dans une collection d'un FRAC, elle est tout de suite destinée à un usage. Et cet usage, il est dans une proximité immédiate avec effectivement le jeune public qui a fondé depuis 30 ans en fait l'histoire des FRAC, hein, puisque cette mission de diffusion, de médiation, elle a été d'emblée annexée à celle d'acquisition, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le socle fondateur. Mais on a en 30 ans effectivement des œuvres qui sont devenues des œuvres qui jouent vraiment sur cette dynamique de passerelle, de lien avec des publics qui parfois peuvent être tout à fait déstabilisés par les différentes attitudes de l'art contemporain aujourd'hui. En fait.
Dans le catalogue édité par le FRAC, les abattoirs Midi-Pyrénées, les Pléiades, suite à cette exposition des 30 ans de création des fonds régionaux d'art contemporain, il y a un entretien avec Cécile Burnichon et qui explique un peu sa vision de ce que serait un musée de demain. Elle parle d'un musée démocratisé en s'efforçant de rendre le visiteur contributeur. finalement, on est dans la continuité, c'est-à-dire travailler la relation entre le public et l'art, au point qu'aujourd'hui, ça devient aussi, sans doute, la délégue d'un public contributeur. Est-ce que c'est cela demain, enfin l'avenir finalement de la question de la valeur une œuvre, c'est la capacité à opérer des gestes de contribution?
C'est surtout la façon dont on peut et dont on doit aujourd'hui faire d'une acquisition d'une œuvre un travail de médiation en fait, et mettre en place un travail de médiation. Je crois que c'est très très important que le public dans une exposition d'art contemporain soit pas juste un public qui soit dans un acte de contemplation, de lecture solitaire, mais au contraire que les œuvres puissent provoquer, créer des réactions et qu'il y ait véritablement un accompagnement. Donc on est véritablement dans cette démarche.
Ce qui veut dire que l'œuvre toute seule, finalement dans sa réserve, enfermée dans sa boîte, elle ne vaut rien.
Non, pas tout à fait, mais ce que ça signifie surtout, c'est que les collections des FRAC aujourd'hui sont des collections en mouvement, encore une fois. Et donc le sens, leur pertinence, elle est construite véritablement par l'accompagnement qu'on va lui donner, et elle peut très bien trouver une lecture et une identité très forte, indépendamment d'un travail pédagogique. Et on le voit d'ailleurs à travers toutes les œuvres que l'on prête dans des expositions muséographiques et qui circulent dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on est vraiment sur les deux registres. Mais le registre sur lequel les FRAC ont une mission fondatrice, c'est véritablement dans cette mission de relecture de l'œuvre dans un contexte particulier.
L'œuvre prend son sens dans le regard d'un autre, disons. Elle a besoin d'un rapport à l'altérité. Les FRAC, donc 30 ans, l'histoire a fait évoluer un peu les missions du FRAC. Et désormais, nous avons des FRAC dites de nouvelle génération, des FRAC qui disposent de leurs propres murs, comme c'est le cas du FRAC PACA. Est-ce que ce n'est pas cette question d'avoir un FRAC ayant ses propres murs, pouvant finalement exposer les œuvres qu'il a acquises? Est-ce que ce n'est pas aussi parce que, d'une certaine manière, les œuvres acquises sont de moins en moins contemporaines et que donc se pose la question là de quelque chose d'un patrimoine?
La question du patrimoine, effectivement, elle s'est affirmée au fil des années et en 30 ans avec 25 000 œuvres, avec une moyenne à peu près entre 500 et 1 millier d'œuvres dans la plupart des FRAC. La question de la conservation, la question de la diffusion des collections a été le point de départ de tout projet architectural. Donc c'est vrai qu'on est à un moment à la fois de croissance et à un moment un peu paradoxal, puisque les FRAC ont cherché au moment de leur création, à mettre en œuvre un projet différent du projet du musée. Et on se retrouve aujourd'hui, effectivement, avec un certain nombre de FRAC de nouvelle génération qui empruntent à 100% le modèle muséal en termes aussi bien d'architecture que de conservation, que d'exposition. Donc là encore, je crois que ce sont vraiment les missions des FRAC qui permettent de différencier, et non pas uniquement l'aspect architectural, la dynamique qui est en jeu. C'est-à-dire vraiment une dynamique de plateforme, de diffusion, de production, d'exposition, et surtout pas une dynamique qui viserait à écrire une histoire de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'on est, on est bien au-delà, à la fois d'un point de vue positif et négatif, bien au-delà puisqu'on est vraiment sur un travail de prospection, donc vraiment un travail de pari sur l'avenir et d'engagement tout à fait incertain dans la durée auprès d'un certain nombre d'artistes, mais aussi par le fait que les FRAC ne couvrent pas tous les courants et tous les mouvements de l'art contemporain du siècle passé et du 21e siècle. C'était ni notre mission ni l'objectif des FRAC. Et il est clair que là, on se situe sur un terrain de jeu un peu différent de celui des musées. Mais c'est vrai que pour le public aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à comprendre la différence entre un musée d'art contemporain, un FRAC, une dynamique de centre d'art, et qu'on est vraiment sur un projet vraiment pluridisciplinaire.
J'allais justement vous poser la question de comment on fait cette différence entre un musée d'art contemporain et un FRAC aujourd'hui.
Elle est vraiment conçue sur la lecture de la collection et sur la dynamique d'exposition. C'est-à-dire qu'un FRAC emprunte véritablement au modèle du centre d'art cette dynamique de programmation d'exposition temporaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une plateforme, là aussi, hein, héritée du modèle historique des Kunsthalle allemandes, qui étaient des lieux avec non pas des collections, mais uniquement une programmation d'exposition, auxquels les FRAC ont développé une mission fondamentale qui était celle de la constitution d'une collection. Donc on est vraiment sur des paramètres très, 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 très sensible et très ténu entre, pour le grand public, entre ce que serait un FRAC et un musée. Disons que la, la dimension muséale est plus une dimension, encore une fois, d'histoire de l'art, plus linéaire, d'explication de ce que sont aujourd'hui les grands courants de l'art contemporain. D'un frac à l'autre, vous retrouverez les artistes qui ont fondé ces mouvements, mais vous ne retrouverez dans aucun d'entre eux une lecture exhaustive de toute la scène artistique internationale.
Et cette différence n'étant plus véritablement, d'une certaine manière, une différence d'institution.
Non,
ce qui pose la question, par exemple, à Marseille, Frac Paca, qui a son propre lieu, et le MAC, est-ce que là, il n'y a pas doublon d'institution?
Non, il n'y a pas doublon, mais effectivement, pour un public amateur d'art contemporain, la différence se jouera pas sur la dynamique de plateforme, de diffusion. Elle se jouera effectivement sur le contenu des expositions temporaires. Mais on est vraiment sur des missions complémentaires. C'est-à-dire qu'un musée a pour vocation véritablement à écrire une histoire de l'art contemporain. Un FRAC a pour vocation d'être sur une dynamique prospective, hein, et de revendiquer aussi un certain nombre d'erreurs que l'on pourrait faire dans la durée. Il y a un grand nombre d'artistes qui dans les années 80 ont aujourd'hui totalement disparu de la scène artistique, et c'est pas pour autant qu'ils ne représentent pas à un moment donné un instant de cet art contemporain qui s'est construit pendant 30 ans.
Ces FRAC nouvelle génération ont le sentiment que c'est par l'architecture qu'il y a aujourd'hui un renouvellement des FRAC.
Oui, je crois que c'est le grand message que l'on constate pour les cinq nouveaux FRAC dits de nouvelle génération. On l'avait peut-être pas forcément tous mesuré à cette échelle. C'est que l'architecture est un vecteur de communication, une force de communication absolument sans précédent, et que convoquer un grand nom de l'architecture internationale sur la construction d'un FRAC a permis aussi d'avoir une visibilité beaucoup, beaucoup plus forte que les centaines de projets qu'on pouvait faire au quotidien et sur lesquels, effectivement, souvent, on est en manque de retour de communication. Donc la force de l'architecture aujourd'hui, c'est vraiment à la fois un geste de communication, un geste politique fort, et on est au cœur de cette aventure aujourd'hui.
L'architecture, c'est aussi le sujet de l'exposition à l'heure actuelle au FRAC PACA d'Éric Attan, qui s'intitule « Habiter l'inhabituel ». C'est une architecture plus ou moins visible.
Oui, c'est un propos assez intéressant, parce qu'il se trouve qu'Éric Attan était aussi l'artiste invité dans le cadre des 30 ans des FRAC aux abattoirs à Toulouse, et qu'il a vraiment parcouru dans une forme performative les 23 FRAC en France. Et là, aujourd'hui, à Marseille, on découvre effectivement une lecture de ce bâtiment qui a 10 mois d'ouverture au public, donc il reste encore un bâtiment à découvrir pour le plus grand nombre. Il nous livre vraiment son point de vue sur un espace qu'il habite et dont il révèle en fait un certain nombre d'éléments architecturaux. Oui.
Merci Pascal Neveu, directeur du FRAC PACA. L'exposition d'Éric Attan, ça s'appelle « Habiter l'inhabituel », c'est jusqu'au dimanche 4 mai 2014. Je rappelle donc que c'était une mission à l'occasion des 30 ans de la création des FRAC, des Fonds Régionaux d'Art Contemporain. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Grenouille en podcast, Radio Grenouille. Pascal Neveu, merci.
Merci.
Chouette, chouette. Indirect.
Le 13-30, un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure.
Radio Grenouille, en direct. En direct.
À 13h30.
88.8 FM. Nous écoutez à volonté radiogrenouille.com. Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com.